Salut à tous, ici Zeni pour déjà la cinquième entrée du Poké Freak Show. Alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé dans cette émission de Pokémon par rapport à des mythologies ou des légendes urbaines. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'émission, je vous disais que je parlerais aussi des Pokémon d'un point de vue biologique et même zoologique. Car il faut quand même avouer que tous les Pokémon ne sont pas tous issus de belles légendes. En fait, la grosse majorité sont inspirés d'une autre source quasi inépuisable, que vous connaissez très bien, le règne animal. Et à part peut-être l'ornithorynque, le narval et le coq, je ne vois pas quel animal n'a pas encore eu d'équivalent dans cet univers. Donc autant dire que de ce côté-là, il y a des choses à dire. Seulement, il faut avouer qu'il est très difficile de faire tout un podcast sur un Pokémon inspiré uniquement d'un animal. Genre, vous me voyez passer 20 minutes à vous expliquer à quel point Wailord est inspiré d'une baleine ou Ponyta d'un cheval. Physionomiquement parlant, c'est peu intéressant. Mais d'un point de vue comportemental, on peut s'y retrouver. En effet, en plus de leur apparence, beaucoup de Pokémon reprennent les codes de ces animaux. En bref, on reprend une caractéristique d'un animal et on le pousse à l'extrême dans le Pokémon. Pour vous donner un exemple banal, il y a bien sûr le bébé de Kangourex dans la poche de sa maman, comme pour un kangourou. Du coup, aujourd'hui, forcément, je vais vous parler d'une famille de Pokémon qui utilise ce principe. Plus précisément, on va parler de papillons de nuit. Mais le Pokémon, ou plutôt les Pokémon du jour, ont des caractéristiques assez intéressantes et totalement exploitables. Bref, les sujets du jour sont Shinity, Pokémon numéro 412, ainsi que Shinicel numéro 413 et Papilord numéro 414, tous trois issus de la 4ème génération. Ces noms vous disent rien ? C'est normal, ils font partie de ces Pokémon tellement oubliés qu'ils sont même oubliés dans les listes de Pokémon les plus oubliés. C'est un peu le même syndrome qu'Assolourdo, c'est-à-dire des Pokémon très rares ou très difficiles à obtenir, pour finalement pas grand-chose. Donc Shinity, Shinicel et Papilord sont tous trois des Pokémon de type insecte, habitant principalement à Shino. On retrouve Shinity, le seul capturable des trois, dans les arbres de toute la région, accompagné entre autres des Apitrini, Seribou, Capumin et Goinfrex. Et comme tous ces Pokémon, il faut les attirer avec un peu de miel, ce qui donne un Pokémon absolument compliqué à atteindre, et en plus, on ne l'a pas à tous les coups. Heureusement que son système de rencontre s'est simplifié au fil des générations, bref, admettons que vous le capturez. Vous obtiendrez quoi alors ? Une espèce de cocon. En tout cas, quelque chose qui ressemble à un cocon. Un petit amas de feuilles de 20 cm qui entoure une créature noire de forme ovale. Tout ce qu'on voit de cette créature, c'est ses yeux jaunes, son petit museau et sa longue antenne qui dépasse au sommet de son crâne. Et c'est tout. Sachez au passage que l'animé nous donne l'occasion de le voir sans sa cape dans l'épisode 496 et nous permet de bien nous rendre compte que Shinity est en réalité une larve noire. Si vous analysez bien ses caractéristiques, vous verrez que vous avez obtenu un Pokémon qui ne peut obtenir que 4 attaques, abri, charge, piqûre et puissance cachée. Et c'est tout, juste ça. Vous me direz que, vu la forme de ce Pokémon, abri est plutôt de rigueur, mais bon. Notre ami se défend avec quand même deux talents assez cool, Mu qui lui permet de soigner ses altérations de statut un tour sur trois, et Envelocap qui le protège des changements climatiques. Donc bah, pour un Pokémon de début de partie, ça se défend plutôt bien. Mais vous vous en doutez, la particularité de ce Pokémon n'est pas son attaque. Car une fois que vous aurez quitté la forêt pour rejoindre Félicité ou Unionpolis par exemple, et que vous lancerez un combat, une chose vous marquera direct, votre Shinity a changé. Il a perdu ses feuilles et vous le verrez porter une sorte de couche rose avec des épines métalliques qui dépassent. Et si vous allez dans une grotte, il portera cette fois une couche jaune avec des cailloux. En fait, Shinity est un Pokémon qui s'adapte à son environnement. Il possède trois capes différentes, sa cape plante quand il combat dans les hautes herbes, sa cape sable, la jaune, quand il combat dans une grotte ou un désert, et sa cape appelée déchet quand il combat dans une ville. Bon après ça change pas grand chose, juste l'apparence de votre Pokémon. Mais bon, ça reste intéressant à observer. Vous allez surtout vous demander pourquoi il a changé comme ça, et surtout, est-ce que ça a une importance concrète? Ça fait un moment que vous jouez avec votre Shinity maintenant. Malgré sa très faible attaque, vous réussissez à le faire monter de niveau, jusqu'au niveau 20. Et là soudain, votre camarade évolue. Et c'est là que ça devient rigolo, parce que Shinity fait partie de cette catégorie de Pokémon dont l'évolution dépend de son genre. Dans un premier temps, supposons qu'il est masculin. Shinity deviendra alors un Papilord, un Pokémon qui ressemble beaucoup à un papillon de nuit. De type insectévole, il possède des ailes oranges, un corps noir et deux antennes blanches et oranges. Il a accès à bien plus d'attaques comme Psycho et Papillodance, et possède deux talents sympas, Essaim qui lui augmente son attaque insecte s'il va mal, et l'anti-teinté qui double ses attaques peu efficaces. Il a une excellente attaque, mais une défense si mauvaise qu'on lui préférera forcément Papillusion ou n'importe quel autre Pokémon insecte dans le même genre. Bref, un Pokémon dont la classe n'est visible que dans son nom. Et sinon, il se passe quoi si Shinity est femelle ? il évoluerait en Chenicel. Et en fait, bah, vous aurez un Shinty en plus gros. Du haut de son demi-mètre, on retrouve alors une espèce de bête noire avec une antenne et une grosse couche, mais avec un long nez et deux appendices autour de l'antenne. Bref, quasiment la même chose, non ? En fait, il a une subtilité non négligeable. Vous vous souvenez, contrairement à Papilord qui reste le même quelle que soit votre position, Shinity change de forme en fonction de son environnement. Eh bien, Shinicel hérite de la cape qu'elle avait durant son évolution et la garde pour toujours. Et qui plus est, elle obtient aussi un type qui va avec ce cocon. Si elle avait la cape plante, Shinicel serait de type plante en plus de son type insecte. Si elle avait sa cape sable, elle aurait gagné le type sol. Et si elle avait sa cape déchet, ça serait le type acier. En fait, cette particularité aurait pu lui permettre d'être intéressant en stratégie, à l'instar de Motisma et de tous ses alter ego. Hélas, bien que sa version déchet lui permet d'être sensible qu'à un seul type, elle est totalement inexploitable en stratégie, quelle que soit sa version. Des stats très faibles, peu de bonnes attaques et des talents médiocres. Et quelle que soit sa version, elle est inexploitable, et ce, même dans les plus mauvais tiers du jeu. Bref, elle rejoint Girafarig et Insulurdo dans la liste des Pokémon qu'il ne faut certainement pas lancer en combat. Bref, comme je l'ai dit, cette famille est comme Insulurdo, c'est-à-dire des Pokémon vraiment difficiles à capturer et qui ne servent absolument à rien. Et c'est bien dommage car ce Pokémon a tout de même une grosse particularité, cette famille est la seule de tout le jeu qui ne demande pas un, ni deux, mais trois facteurs d'évolution. Déjà, quoi qu'il arrive, Shinity doit atteindre le niveau 20 pour évoluer. Ensuite, si c'est un mâle, il devient un Papilord. Et enfin, si c'est une femelle, sa forme sera en fonction du lieu dans lequel elle évolue, ce qui est une particularité unique dans le jeu. Si elle combattait dans une forêt, elle deviendrait un Shinicel cap plante. Si c'était une grotte, elle deviendrait Shinicel cap sable. Si c'était dans une ville, elle deviendrait Shinicel cap déchet. En bref, vous l'aurez compris, le principal et surtout unique intérêt de Shinity, c'est son système d'évolution. Maintenant, on peut se poser deux questions. Déjà, pourquoi avoir fait un Pokémon avec un système aussi complexe ? C'était pas assez simple de le faire juste changer de forme en fonction de son genre ? Puis aussi, tant qu'à faire, pourquoi c'est aussi difficile de l'obtenir ? La seconde question, celle qu'on se pose finalement dans chaque épisode, est bien évidemment, mais dis donc, d'où vient-il en fait ? D'où vient l'idée de ces évolutions ? Alors le concept de Shinity, Shinicel et même de Papilord est assez complexe finalement. Donc dans un premier temps, je vous propose d'essayer de trouver des indices dans les descriptions du Pokédex. Alors, que nous dit le Pokédex de Shinity ? Platine nous dit que, on ne sait pas comment, mais il arrive toujours à se former une cape, où qu'il soit. Diamant nous dit qu'il s'est fait une cape de feuilles et de brindilles pour se protéger des vents de l'hiver. Et Perle raconte que s'il perd sa cape en combat, il s'en tisse rapidement une nouvelle avec ce qui lui tombe sous la main. Ces descriptions correspondent bien aux caractéristiques vues au-dessus et à son talon enveloppe-cap qui le protège effectivement des changements de température. Donc voyons ses évolutions. L'entrée de Perle pour Shinicel confirme encore tout ça avec « Son apparence varie selon le lieu d'évolution et son corps est façonné avec des matériaux à disposition. » La plupart des autres descriptions racontent aussi ça, comme celle de Noir et Blanc qui nous dit qu'à l'évolution, son corps absorbe les matériaux à proximité et peut ainsi présenter divers aspects. Mais nous noterons l'entrée de Perle qui va plus loin avec cette description d'évolution. Quand Shinity a évolué, sa cape a fusionné avec son corps. Shinicel ne s'en sépare jamais. Enfin, les descriptions de Papilord prennent à contre-pied tout ça et se concentrent sur autre chose. En effet, Platine nous raconte qu'il adore le nectar des fleurs, n'en récolte pas lui-même. En effet, il préfère en voler à un Apitrini. Heartgold va dans ce sens en nous disant qu'il s'active la nuit tombée pour voler le miel des Apitrini pendant leur sommeil. Plusieurs choses sont à retenir de tout ça. Déjà, les différents Pokédex résument bien le système d'évolution que nous avions vu concernant les différentes capes de Shinity et de Shinicel. Ça paraît bête, mais ça veut dire que le système est bien dans la diégèse du jeu. Pour Shinicel, on a bien insisté sur le fait que celle-ci avait fusionné avec sa cape durant son évolution. Et enfin, pour Papilord, on nous parle de sa manie à voler le miel des Apitrini, Pokémon ressemblant à une abeille de la même génération que notre trio. Cela pourrait donc expliquer pourquoi il fallait utiliser du miel pour attirer les Shinity afin de les capturer. Bref, ça fait quand même beaucoup de choses. Et si on rajoute à ça toutes les descriptions physiques que nous avons explicitées, ça fait énormément de choses à analyser. Mais bon, prenons le temps de voir chacune des choses que nous avons vues jusque-là sur cette famille et voyons quelles sont leurs origines. Commençons tout doucement avec le système entier de leur évolution. Est-ce qu'il existe un insecte qui se constitue aussi une cape en fonction de son environnement et surtout qui est différent en fonction de son genre ? Donc les Psychidés sont une famille de papillons qu'on retrouve un peu partout sur Terre. Ce sont des insectes dont la larve a tendance à se construire une espèce de fourreau autour de lui pour pouvoir gérer sa croissance, fourreau qui se construit tout simplement en fonction de ce qu'il trouve. Contrairement à Shinichi dont la cape lui servait à se protéger des vents froids, ceux des Psychidés servent surtout de camouflage pour se protéger de leurs prédateurs naturels. Il est tout de même à noter que c'est un fourreau mobile de 15 cm qu'il construit au fil de ses croissances. Ce dernier point le différencie du coup de Shinichi qui se construit une nouvelle cape lorsqu'il change d'environnement. Mais dans les grandes lignes, on retrouve bien tout ça. Une cape, ou un fourreau, qui se construit avec des matériaux accessibles autour de lui. Et ce n'est pas fini, car en fait, ces insectes changent en grandissant en papillons. Sauf qu'il a une particularité notable, les psychidés mâles deviennent bien des espèces de papillons de nuit, tandis que la femelle sont aptères, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas d'ailes. Dans certaines espèces de psychidés, les familles gardent leur fourreau toute leur vie pour pouvoir féconder tranquillou, tandis que les mâles ne vivent qu'une seule journée, le temps de faire des bébés et c'est tout. Notez au passage qu'une autre famille de Pokémon s'inspire de cette espèce de papillon, celle de pommes des pics, ce qui explique leur double type insecte. Donc nous avons avec cet insecte relevé la plupart des mystères de Shinichi, Shinicel et Papilord, ce qui n'était pas si difficile car ils s'inspirent directement d'eux. Cela dit, certains détails ne figurent pas dans leur description. Par exemple, Papilord mange du miel, mais les psychidés mâles adultes n'ont pas de bouche. Donc vous vous doutez bien que Shinichi s'inspire à 100% de ses larves, Papilord et Shinicel ont eu d'autres inspirations. Commençons donc par celui qui a des ailes. Donc Papilord est un papillon de nuit, ou hétérocère si on veut utiliser des termes pompeux, même si cette sous-catégorie n'existe plus officiellement. Mais si on lit le nom de sa famille, on voit que Papilord est catégorisé en tant que phalène. Les phalènes, c'est une catégorie de papillons de nuit de taille petite ou moyenne qui mettent leurs ailes à plat. En gros, c'est ceux qu'on voit le plus souvent chez nous en fait. D'ailleurs, en plus de sa famille, Papilord partage avec eux leurs oreilles. Comme nous l'avions dit dans les lectures du Pokédex, Papilord aime beaucoup voler du miel. Alors c'est peut-être une référence au fait que beaucoup de papillons, et pas seulement de nuit, sont attirés par tout ce qui est sucré, mais on peut aussi penser qu'il s'agit d'une référence aux petites teignes, ou wax moths en anglais, qui sont des insectes se nourrissant de cadres de ruches, qui se battent pour en donner à leurs larves, au point d'être un vrai prédateur pour les abeilles et un ennemi des apiculteurs. Mais toutes ces catégories que je vous ai citées, aucune se retrouve dans le Psychidé, comme si Shinichi, en évoluant, devenait une toute autre espèce. Ou alors un mix de plusieurs papillons de nuit, c'est bizarre non? D'autant qu'il existe d'autres papillons de nuit dans l'univers de Pokémon, Aeromite, Pyrax et Papinox. Et en plus, ces trois-là s'inspirent directement d'espèces ou de sous-groupes de papillons de nuit précis. Pyrax est une mythe de l'Atlas, une espèce géante de l'Asie du Sud-Ouest, tandis que Papinox tire ses traits du papillon lune, qui est peut-être le plus beau papillon de nuit que vous verrez si vous le googlez. Enfin, Aeromite fait plus référence au mythe, à savoir l'ensemble des papillons qu'on pourrait qualifier de nuisibles. Donc pourquoi Papilord, lui, serait un match-up de ce qui existe déjà en plus isolé dans l'univers de Pokémon? Alors j'ai une théorie à ce sujet, mais elle n'est pas infaillible à 100%. C'est que les développeurs ont choisi de faire ça pour justifier l'amour de ces Pokémon pour le miel. Pour rappel, on peut les capturer qu'en utilisant un pot de miel comme appât. Et ce qu'il faut savoir avec les psychidés mâles adultes, c'est que certes ils volent, ils peuvent partir, vivre leur vie et tout. Mais ils ont un défaut, leur pièce buccale est atrophiée. En d'autres termes, ils n'ont pas de bouche. Et pas de bouche, pas de nourriture. Et pas de nourriture donne une espérance de vie ridicule, ce qui n'aurait pas fait les affaires de Game Freak. Vous imaginez un Pokémon qui ne peut servir qu'une seule fois avant de mourir? Donc pour pallier tout ça, tout en se conservant un Psychidé, j'imagine qu'ils ont préféré piocher un peu à gauche à droite pour récupérer d'autres caractéristiques ailleurs pour pouvoir le garder. Ce qui n'est pas bête, au fond, mais bon. Maintenant pour finir, passons à Shinicel. Bon, en théorie, c'est plus facile de trouver des origines de Shinicel, c'est juste la continuité de Shinichi en fait. Comme je l'ai dit plus tôt, lorsque le Psychédé grandit en étant une femelle, n'acquiert pas d'ailes et devient une sorte de gros cafard. Donc elle utilise un cocon en grandissant. Mais... c'est tout? Est-ce que c'est vraiment la seule chose à dire sur Shinicel? Il y a un truc intéressant dans son entrée du Pokédex sur lequel j'ai bien insisté, c'est qu'il est dit qu'elle fusionne avec sa cape en évoluant, et garde les couleurs qu'elle avait à ce moment-là, ce qui explique pourquoi elle acquiert un double type en plus, et le reste pour toujours. Or, le Psychidé n'a pas du tout cette faculté. Cela dit, cette particularité existe tout de même chez certains phalènes, dans un sens. Finalement, Shinicel, contrairement à sa pré-évolution Shinichi, qui a sa cape pour se protéger de la température, s'adapte à l'environnement dans lequel elle se trouve, sans doute par instinct de survie, genre pour se camoufler. Ce qui en soi est assez intéressant. Ça explique sa faiblesse au combat d'ailleurs, puisque c'est un Pokémon qui se cache plutôt que de combattre. Mais alors pourquoi elle garde cette forme en évoluant? Alors je pense que c'est une référence à ce qui se passe dans la vraie vie. Et là, nous allons parler de l'autre origine de Shinicel. Parce que bon, nous trouverons aucun insecte qui évolue en fonction de l'endroit dans lequel il grandit, puisque comme la plupart des espèces vivantes, ils restent dans leur milieu naturel qui respecte déjà certaines règles strictes. Donc ils n'ont pas besoin d'une faculté à se modifier en fonction d'un lieu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce milieu naturel lui-même change? Genre à cause du réchauffement climatique par exemple, ou tout simplement à cause de la pollution? Eh bien, ça a été justement une étude faite au 19e siècle sur une espèce de papillon de nuit, le Biston betularia, ou phalène de bouleau. Et si vous avez déjà étudié la génétique en cours de biologie, vous avez déjà dû entendre parler de ce nom, tellement son étude a fait sensation. Donc les phalènes de bouleau sont une espèce d'insectes très répandue dans les régions tempérées, et plus précisément dans les lieux où on retrouve des bouleaux. En effet, ce phalène a la particularité d'être blanc avec quelques taches noires, tout comme l'écorce d'un bouleau, ce qui lui sert de moyen de camouflage parfait face à ses prédateurs naturels. Alors ce genre de couleur est déjà assez intéressant, genre comment ça se fait qu'il ait ce motif bien précis? L'étude va beaucoup plus loin. En effet, entre 1848 et 1954, il a été observé qu'une autre espèce de ce phalène était majoritaire dans la région de Manchester, des phalènes de bouleau avec une couleur beaucoup plus sombre. Ils étaient même majoritaires à plus de 90% au XXe siècle, avant que ceux avec des couleurs plus claires reviennent en force à partir de ce moment-là. En fait, ce que l'étude a retourné, c'est que ce changement de couleur est dû directement à l'ère industrielle dont l'Angleterre a été le principal acteur. En effet, avec l'arrivée de particules de carbone, l'écorce des bouleaux devenait plus sombre et allant jusqu'à avoir des teintes carrément noires. Et du coup, les phalènes se faisaient plus repérer par des oiseaux à cause de leurs ailes toujours claires. Il leur a donc fallu s'adapter pour survivre. Sauf que la rapidité de cette adaptation est quand même bluffante. D'autant plus que lorsque les usines ont commencé à fermer et que les bouleaux sont redevenus plus clairs, les phalènes ont repris illico leur teinte d'origine. Bref, il s'agit d'un exemple de sélection naturelle et de mutation encore très reconnue. Pour utiliser les bons termes, il s'agit d'un exemple d'une adaptation locale concernant un mélanisme industriel. L'ère industrielle a créé en cette espèce une allèle qui gère les couleurs, soit claires, soit sombres. Le reste, c'est géré par la sélection naturelle. Mais bien que ce soit le plus connu, c'est loin d'être le seul exemple d'adaptation locale. En fait, l'évolution même se base sur ça, s'adapter à notre milieu naturel, que ça soit lié à un nouvel environnement, comme à l'évolution de la chaîne alimentaire. Tout se fait comme ça, et nous l'avions déjà vivement vu dans l'épisode de Trousselin. Et en fait, chez les insectes, c'est bien plus significatif que chez n'importe quelle autre espèce vivante. Par exemple, pas mal d'espèces ont déjà réussi à s'adapter à la plupart des insecticides. Forcément, c'est les espèces les plus fragiles du règne animal, donc ils doivent s'adapter plus rapidement. Et c'est peut-être ça que l'existence de Chinicel a voulu souligner. Un Pokémon qui s'adapte rapidement à son environnement, au point de changer son propre code génétique. Ici, Chinicel fusionne avec sa cape pour en devenir plus qu'un. Du coup, ça colle bien. Donc voilà, nous avons vu à peu près d'où venait chaque représentant de la famille de Chenity. C'est un peu abstrait au fond, mais crédible. La famille de Chenity s'inspire des psychidés, mais une fois évoluée, englobe une grosse partie de les capacités des papillons de nuit en règle générale. C'est limite si on apprenait que Papy Lord avait aussi un amour profond pour les lampes. Après, bon, on retrouve le même problème que d'habitude. Pourquoi avoir fait un Pokémon au fond si complexe, surtout si ça n'a aucune influence sur le combat? Motisma a aussi beaucoup de formes, mais la plupart d'entre elles sont utilisables en stratégie pour des raisons différentes, ce qui n'est pas le cas de celle de Chenicel. Donc pourquoi avoir fait tout ça et rendu la vie des dresseurs de Pokémon aussi inutilement compliquée? La réponse est simple, il s'agit d'un insecte. Vous le savez sans doute, l'origine de Pokémon est la chasse aux insectes. Une activité très populaire chez les plus jeunes au Japon durant des décennies, et il y a même un nom pour ça, les Konshu Shonen, pour garçons aux insectes. Et tous les mécanismes de base de la licence viennent de ça, notamment l'élevage et le combat, parce que oui, les éleveurs d'insectes font des combats, et c'est... pas vraiment l'activité la plus honorable du monde, si vous voulez mon avis. Mais bon, en tout cas, il y a une autre particularité dont Pokémon a hérité de cette discipline, l'évolution. Clairement, le principe d'évolution est un héritage des insectes. Vous retrouverez nulle part ailleurs dans le règne animal un changement aussi radical que dans les insectes qui, je le rappelle, peuvent passer d'une simple chenille à un beau papillon en quelques mois. Il y a autant de différences entre cette chenille et ce papillon qu'entre un salamèche et un dracofeu, donc c'est évident que c'est lié. Et enfin, il y a encore un autre point commun entre l'élevage et les insectes de Pokémon, et c'est... le type insecte quoi. Bon, c'est assez évident, mais mine de rien, c'est important de le signaler. Parce que, comme je l'ai souligné, la croissance des insectes est très significative par rapport à la croissance des autres animaux. Donc n'était-ce pas légitime de faire un système aussi significatif pour des Pokémon de type insecte par rapport aux autres espèces? Comment marche l'évolution d'un Pokémon? Dans la grande majorité des cas, il faut que celui-ci atteigne un certain niveau. Parmi les autres critères les plus répandus, il y a aussi le contact avec une pierre, le bonheur, échanger en tenant un objet, ou encore le faire évoluer dans un lieu précis. Et pour la plupart, c'est l'unique condition. Mais chez les insectes, on a quelques systèmes bien barrés. Dans la 5G par exemple, on devait échanger Escargot contre Carabille pour obtenir Limaspeed et Lancergot. Dans la 3G, pour obtenir Moonja, il fallait faire évoluer un Ingal en Ninjask et avoir une place de libre dans son équipe. L'évolution de Shinipot vers Blindelis ou Armulis se faisait aléatoirement, et dans la 6G, on a eu Peregrin qui évoluait en Prismillion avec les couleurs de son pays d'origine. Puis même, dans un sens, dans Pokémon Rouge et Bleu, l'évolution de Shinipan pouvait sortir de l'ordinaire. D'un point de vue très basique, on peut voir que Shinipan évolue en Chrysacier au niveau 7, puis en Papillusion au niveau 10. Mais dans un sens, on peut aussi se dire que Shinipan évolue en Papillusion au niveau 10, après une période où il ne connaît que l'attaque armure pendant 3 niveaux. En tout cas, ce système-là a bien marqué les joueurs. Et franchement, à part Evoli, Debugant et Sepiatop, très peu de Pokémon ont des systèmes d'évolution aussi barrés. Et du coup, au milieu de tout ça, il y a aussi Shinity qui, si vous vous souvenez bien, est le Pokémon qui possède le plus de critères d'évolution. Donc au final, c'est pour ça que cette famille est un mélange de plein d'aspects des papillons de nuit. Car il symbolise tout cet aspect qui a autant inspiré Pokémon. N'oubliez pas aussi les concours d'insectes à Johto, et vous verrez que malgré ce que c'est devenu, la licence n'oublie jamais ses origines. Les insectes sont toujours là pour rappeler tout ça. Et quand bien même, l'élevage d'insectes au Japon est ce qui se rapproche le plus de l'univers du jeu. En effet, les Konshu Shonen passent des journées à rechercher le scarabée rhinocéros ou la mante religieuse parfaite, avec les bonnes capacités et sans aucun défaut, et les élèvent pour des combats. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de l'aventure, on fait la connaissance des Pokémon insectes, car en soi, l'élevage d'insectes est la première étape avant celle des puissants dragons. Et Shinity est totalement dans cette mouvance. D'une part, on le rencontre au début de l'aventure et on essaie de l'élever dans des bonnes conditions en fonction de l'endroit où on l'a rencontré, avant de finir par le lâcher à un moment donné. Et puis il rentre bien dans l'atmosphère très parc géant de Shinnoh, avec des prairies de fleurs et des grandes forêts. Donc au final, Shinity, Shinicel et Papilord, mais aussi tous les Pokémon de type insecte, sont là pour nous faire découvrir les racines du jeu, mais aussi nous introduire à l'aventure qu'on s'apprête à vivre. Et c'est pour ça qu'on les aime. Merci d'avoir suivi ce 5ème épisode. Un épisode assez classique, sans grande théorie comme vous avez pu entendre dans les autres épisodes, mais bon, il faut bien qu'il y en ait, on peut pas se faire de grosses spéculations à chaque numéro. Puis vous aurez compris que parler de la famille de Shinity était un prétexte pour parler des Pokémon insectes en règle générale. Concernant ce que j'ai proposé au dernier épisode, j'ai reçu quelques micro-théories concernant Archéomyr et Archéodon, mais rien de vraiment concluant. Ceci étant, vous pouvez toujours me faire des remarques ou me proposer des choses concernant nos deux objets archéologiques, mais aussi concernant n'importe quel autre sujet du Pokéfreak Show, voire sur d'autres Pokémon. Pour me joindre, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description de l'épisode sur le site de Radio Kawa. Exceptionnellement, le prochain épisode sera la semaine prochaine. Et ça ne sera pas vraiment un épisode classique, mais un hors-série. Car pendant qu'on parle de vieux Pokémon, la licence continue d'avancer avec un nouveau jeu qui sort cette semaine, et surtout, vous n'avez pas pu passer à côté, de nouveaux Pokémon qui ont été révélés. Et vu qu'ils n'ont pas forcément été appréciés, il est peut-être bon de rattraper le coup et de discuter de leur existence. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast ou à partager l'émission à vos amis sur votre réseau social préféré. Après tout, Pokémon comme l'élevage d'insectes est avant tout une activité de partage, donc restons dans la thématique. Enfin, vous pouvez aussi faire un don au Patreon de Radio Kawa qui produit cette émission. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 8ème génération. Ciao! Amoureux des jolies vieilles choses, passionné des pixels et de la 3D mal dégrossie, JB et ses sbires avisés vous accueillent chez Super Retro Mega X, la caverne au trésor d'un passé riche à l'histoire incroyable. Une fois par mois, les archéologues de Radio Kawa débattent sur les fondations du jeu vidéo, accompagnés de temps à autre par des invités émérites. Et en plus, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un épisode sur Pokémon, donc allez-y, une fois par mois, sur Radio Kawa.